Quand on pense à la forêt, on imagine souvent une balade, le calme, la nature.
Oui, quelque chose d'apaisant.
Exactement. Mais là, j'ai sous les yeux des documents qui racontent une toute autre histoire. Une histoire de sueur, de danger et d'une ingéniosité incroyable.
Et la source est assez inattendue.
Ah oui, ce n'est pas un livre d'histoire classique. C'est le bulletin d'un club de collectionneurs de cartes postales. Le bulletin numéro 59 du Carte Club Aveyronnais. Et c'est justement ce qui rend cette exploration fascinante. Chaque carte postale, c'est une fenêtre. Une fenêtre sur un monde qui a complètement disparu, celui des métiers du bois.
C'est tout à fait ça. On va vraiment plonger dans le quotidien des bûcherons, des scieurs de long, des flotteurs de bois.
On va voir comment ils vivaient, comment ils travaillaient, et puis surtout, comment la révolution industrielle a tout balayé sur son passage en Aveyron. C'est une enquête historique menée par des passionnés.
Il faut vraiment saluer leur travail. L'article principal est de Jean-Pierre Croum. Et il y a des éclairages très très pointus de Jean-Pierre Azéma et Jean-Claude Souilléré.
Et la mise en page?
Ah, la mise en page est magnifique. C'est le rédacteur en chef, Guy Mazard, qui s'en est chargé. On sent la passion à chaque page, vraiment.
Bon, alors, par où on commence ce voyage?
Au plus profond de la forêt, je pense. Avec les premiers de la chaîne. Les bûcherons. Les cartes postales sont incroyables. On les voit posées, très fières, avec leurs outils, la hache, la cognée.
Oui, mais ce qui est peut-être le plus frappant, c'est leur habitat. Ah oui, ils vivaient littéralement sur place, dans des cabanes. Enfin, des abris précaires faits de branchages.
Parfois avec toute la famille, enfants compris.
C'est ça, une vie nomade en fait.
Totalement nomade, rythmée par les coupes. Il restait là des mois, le temps d'abattre une parcelle. Ça demandait une force physique colossale.
Et une connaissance de la forêt, j'imagine.
Une connaissance intime. Savoir quel arbre abattre et surtout comment le faire tomber. C'était un vrai savoir-faire. Mais une fois l'arbre à terre, le plus dur commençait peut-être.
Le transport.
Exactement. Comment sortir ces tonnes de bois de forêt, souvent très difficiles d'accès.
Et là, on découvre un métier qui me semble relever de l'acrobatie à haut risque, les schlitters.
Ah oui? Les Schlitters des Vosges.
Le bulletin en parle en s'appuyant sur le roman Le haut fer de José Giovanni. La schlitt, c'est une sorte de traîneau, c'est ça?
Oui, un traîneau très rudimentaire. Et ce qui est fou, c'est qu'il le remontait à dos d'homme sur des pentes vertigineuses.
Pour ensuite le charger avec des troncs et redescendre. C'est de la folie.
C'est de la folie organisée. C'est vraiment le parfait exemple de l'adaptation à un environnement. En montagne, pas de char à bœuf, donc ils ont inventé cet outil.
Une solution sur mesure.
Voilà. Le bulletin précise que les charges pouvaient atteindre une tonne et demie.
Une tonne et demie?
Il fallait une force herculéenne et une technique de freinage au millimètre pour ne pas se faire écraser. Beaucoup y ont laissé leur vie.
On imagine. Et quand le terrain était plus plat, il y avait le flottage.
Une autre méthode tout aussi spectaculaire. Les rivières, comme le Lot ou l'Yonne, devenaient de véritables autoroutes à bois.
Les cartes postales montrent ça, des milliers de bûches qui recouvrent complètement l'eau.
C'était une économie fluviale à part entière. Le bois, c'était vital pour chauffer Paris. Il y avait des équipes de gaffeurs qui suivaient sur les berges pour décoincer les troncs.
Le bulletin cite Clamécy.
Oui, où la rivière était noyée sous les bûches sur des mètres d'épaisseur. C'était un spectacle, mais un travail incessant.
Bon, une fois les troncs sortis de la forêt, il faut les transformer en poutres, en planches. Et là, on arrive à un autre métier emblématique.
Les scieurs de long.
Ah, les scieurs de long. La technique est très visuelle.
Il faut imaginer la scène, oui. Un tronc est posé en hauteur, sur des tréteaux. Il y a un homme dessus, le chevrier, qui guide la scie.
Et un autre en dessous, le renard.
C'est ça, le renard qui tire la scie vers le bas.
Et qui se prend toute la sueur dans le visage. Il devait être aveuglé. Le bulletin cite même Zola qui parle du renard enfoui jusqu'aux épaules dans ce puits de sciure, l'enfer.
Un enfer, mais un enfer économiquement vital. Avant la machine, c'était le seul moyen de débiter un tronc. Ce qui est touchant dans le bulletin, c'est l'histoire des Ressaillères du Nord Aviron.
C'était des ouvriers saisonniers?
Oui. Ils laissaient femmes et enfants pour partir travailler 6 à 8 mois en Catalogne. Ils vivaient dans la misère pour espérer revenir avec un petit pécule. C'était une vie de sacrifice.
Et ce savoir-faire ancestral, il va être pulvérisé par la technologie.
Le bulletin raconte ce basculement de manière très concrète, avec les souvenirs des frères Bélière à Espalion.
Ils voient débarquer une machine, la verticale.
Et c'est un choc. La machine reproduit le mouvement de la scie, mais comme le dit le texte, à un rythme si rapide que le rendement humain était ridiculisé.
La fin d'un monde.
En une journée, la machine faisait le travail de plusieurs équipes. Fini, on passe de la force de l'homme à celle de la machine.
D'abord l'eau, avec les scieries dans les anciens moulins, et puis la vapeur.
La puissance ultime de l'époque, oui. Les cartes postales montrent ces locomobiles, ces grosses machines à vapeur sur roues qui fument au milieu des villages. Le bruit, l'odeur, tout a changé.
Le paysage sonore des campagnes a dû être complètement transformé.
C'est une substance qu'on trouve dans certains bois et qui empêche les peaux de pourrir. C'est le produit clé pour faire du cuir.
Et il se trouve que le bois de châtaignier,
très présent en Aveyron, en est particulièrement riche. Alors que la châtaigne perdait de son importance alimentaire, son bois a trouvé un débouché industriel majeur.
Et ça a été très vite, hein. Entre 1905 et 1908, 4 usines à tanins ouvrent dans la région.
Sainte-Eulalie-d'Olt, Saint-Félix, Penchot, Entraigues.
Le processus décrit est impressionnant. On n'est plus dans l'artisanat, là.
Non, on change complètement d'échelle. Le bois est déchiqueté en copeaux. Ensuite, on le met dans d'énormes cuves en cuivre.
Le cuivre est important, je crois.
Essentiel. Le fer tacherait le cuir. De l'eau chaude sous pression traverse les copeaux, se charge en tannant. On obtient un bouillon qui est ensuite concentré. C'est de la chimie lourde, quoi.
Mais ce progrès a un prix. Et c'est là que le bulletin est très moderne, je trouve. Il n'oublie pas l'envers du décor.
Pas du tout. Dès 1907, l'usine de Saint-Félix est accusée de polluer massivement la rivière Auterne. La presse locale parle de poissons qui meurent, d'une odeur cadavérique.
Et il y a ce poète, François Fabier, qui est cité.
Oui, un témoignage littéraire incroyable. Il parle de l'usine, la pieuvre immonde qui détruit la forêt et souille la rivière. On est en 1907 et on a déjà une prise de conscience environnementale très, très forte.
Un conflit entre industrie et nature qui nous parle encore aujourd'hui, hein ?
Énormément. Pour finir, le bulletin nous offre une étude de cas qui résume tout ça. L'histoire de la famille Valenti, des immigrés italiens qui se lancent dans l'exploitation de la forêt des Palanges dans les années 20. Et leur histoire est racontée à travers une série de 6 cartes postales. C'est magnifique.
Une saga en miniature.
C'est ça. Pour transporter le bois, ils ne se contentent pas des vieilles méthodes. Ils construisent leur propre voie ferrée de Coville au cœur de la forêt.
Une petite voie ferrée.
Oui, de 60 cm de large. Les photos sont superbes. On voit ces bûcherons cheminots, comme les appelle le bulletin, qui poussent les wagonnets. C'est la modernisation, mais à hauteur d'homme.
Et au milieu de cette réussite, il y a le drame. L'anecdote rapportée m'a vraiment marqué. Jacques Valenti, le descendant, raconte l'accident de son oncle, Pierre.
Ah oui.
Il travaille sur la scierie, il veut débloquer un tronc, et sa main est happée par la scie à ruban.
L'accident est terrible. Il perd 4 doigts, il ne garde que le pouce. C'est un rappel brutal, très concret, de la dangerosité permanente de ce travail.
Même modernisé, le corps est toujours en première ligne.
Toujours.
Et le plus fou, c'est la suite. Il n'a pas arrêté de travailler. Il a continué toute sa vie avec un gant en cuir spécial, fait sur mesure pour sa main mutilée.
Continuer à travailler sur la même machine, ça en dit long sur la dureté de l'époque, sur la résilience de ces gens. C'est toute la dimension humaine derrière les grandes transformations.
En refermant ce bulletin, on a vraiment l'impression d'avoir traversé un siècle. On est parti des charbonniers solitaires, on a suivi les sueurs de long pour arriver aux ouvriers des usines à vapeur.
Chaque carte est une porte d'entrée vers un monde qui nous semble à la fois lointain et familier.
Oui, on y voit les deux phases de l'industrialisation.
D'un côté, elle a mis fin à des conditions de travail d'une pénibilité extrême, des tâches qui brisaient les corps. C'est indéniable.
Mais de l'autre ?
De l'autre, elle a initié une exploitation des ressources à une échelle sans précédent, avec les conséquences sur l'environnement qu'on a vues dès 1907 et qui sont aujourd'hui notre principal défi.
C'est un héritage complexe.
Très complexe. D'ailleurs, l'auteur principal, Jean-Pierre Crume, termine son récit sur une réflexion qui interpelle.
C'est-à-dire ?
Il met en perspective ses anciennes activités aussi rudes qu'elles aient été, avec ce qu'il nomme la surexploitation démesurée et déraisonnable de notre époque. Et ça laisse avec une question assez vertigineuse. Ces cartes nous montrent des métiers balayés par le progrès, mais quand on voit la déforestation industrielle aujourd'hui, à l'échelle mondiale, est-ce que notre rapport à la forêt a vraiment progressé dans le bon sens ?